Lecture et relecture. La chronique de Jacques Rigaud sur Canal Académie.
Je vais vous parler d'un livre étonnant qui ne ressemble à aucun autre. Il y a question de peinture, de musique, de poésie, de théâtre, en une période très particulière qui est la deuxième moitié du XVIe siècle. Ce livre s'intitule « Passage » au pluriel, en sous-titre de « La Renaissance au baroque ». Il est signé de Philippe Baussan, élu à l'Académie française il y a quelques mois. Il est publié chez Fayard. Philippe Baussan est connu comme écrivain, romancier, musicologue. Il est un des fondateurs et un des inspirateurs du Centre de musique baroque de Versailles. Il nous parle de cette période extraordinaire qui suit la Renaissance, qui est la fin de la Renaissance, et qui annonce l'âge baroque. Et il le fait en ayant choisi de parler de quelques œuvres, de quelques auteurs. Et à travers l'analyse qu'il en fait, c'est une période cruciale de l'histoire de la culture occidentale et italienne qu'il raconte. Il a une thèse avec ce que ça peut comporter d'un peu systématique. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle généralisation qu'il fait. Mais le regard que cet amateur distingué, cet homme cultivé, porte sur cette période et sur les œuvres qui la caractérisent est littéralement fascinant. Il met en exergue de son livre, ce qui m'a personnellement beaucoup touché, une phrase de Montaigne, « Je ne peins pas l'être, je peins le passage ». Et sa théorie, car c'en est une, c'est que l'art de la Renaissance au sens italien du mot, c'est-à-dire le Quattrocento, le XVe siècle, est une période qui sort des ombres du Moyen-Âge et qui se fait de la beauté une idée en quelque sorte platonicienne. Elle est inaccessible, inatteignable. Elle est une idée pure, mais certains artistes, Botticelli ou Michel-Ange ou Raphaël, vont s'en approcher, vont en donner leur reflet dans telle ou telle peinture, comme tel poète, dans son œuvre. Et l'on va passer, d'où l'expression « passage », dans la période dont il parle, à une autre forme, à une autre approche, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus incarnée, beaucoup plus vivante, où l'artiste, le créateur, assume son humanité dans toute son étendue. Je vais vous donner les titres des chapitres qui en disent déjà beaucoup. Tintoret, ou comment le temps entre dans la peinture. Monteverdi, comment l'émotion entre dans la musique. Véronèse, comment la peinture devient théâtre. Le Tasse, comment la tragédie entre dans l'épopée. À nouveau Monteverdi, comment le madrigal devient tragédie. Et il termine par Caravage, où le combat de la lumière et de l'ombre. Vous voyez que dans chacun des cas, il montre que le créateur a en quelque sorte franchi une étape, a changé non seulement de style, mais a changé le sens de son art. Par exemple, pour Tintoret, comment le temps entre dans la peinture, il démontre à travers un certain nombre de toiles très connues de Tintoret combien le temps entre dans la peinture en ce sens que l'acte de peindre s'identifie à l'acte, à l'événement qui se produit. On est dedans. Monteverdi, il montre le passage de la musique polyphonique, qui est une musique de lignes superposées. La polyphonie, par définition, elle est multiple. Il y a deux, trois, quatre ou cinq voix qui se superposent. Mais c'est de la musique pure. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de paroles. D'ailleurs, on n'y comprendrait rien. Ce serait complètement mélangé. La musique que nous connaissons depuis, qui est une musique de masse, avec des accords, est complètement différente. Et il montre comment Monteverdi va passer de cette polyphonie à une musique avec des mots qui ont un sens, une signification, et qui, encore une fois, vont donner une réalité charnelle à l'œuvre. De même, il montrera qu'il est un dramaturge et qu'il y a une histoire qu'il raconte. Alors là où il le dit le plus fortement, c'est pour Véronèse, à partir de plusieurs exemples, mais surtout des noces de Cana. La peinture devient théâtre. Les noces de Cana sont une représentation publique, avec 132 personnages. Et il montre d'ailleurs qu'à cette époque, il n'y avait pas de lieu du théâtre. On n'allait pas au théâtre, c'est le théâtre qui venait à nous, à nos anciens, dans la rue, sur le parvis des cathédrales, et il est significatif qu'un ami de Véronèse, au même moment où il compose la noce de Cana, va construire le premier théâtre, c'est Palladio, à Vicenza. Et on va entrer dans une toute autre époque où le théâtre, en tant que lieu, deviendra un élément de rassemblement. Les pages qu'il écrit sur le Tasse sont également éblouissantes. Il montre que la tragédie entre dans l'épopée. Il montre, avec là aussi un peu de systématisme, que la littérature du Moyen-Âge était une littérature de coups d'épée, sans femme, sans amour. C'était de l'action à l'état pur, des heurts entre les hommes, et qu'à partir de l'Orlando Amoroso et de l'Arioste avec Orlando Furioso, on commence à évoquer l'idée de l'amour, l'idée du rapport entre les êtres, des conflits, et cela va dominer avec la Jérusalem délivrée, dont il dit que toute l'Europe s'en est inspirée, et c'est là qu'on voit apparaître des couples comme Renaud et Armide, Tancrède et Clorinde, qui sont des êtres qui s'opposent l'un à l'autre et qui vont tenter de se détruire, comme pour donner une forme absolue à un amour impossible. Et la deuxième partie sur Monteverdi, où il reparle de Monteverdi, s'intitule, comme je le disais, « Comment le madrigal devient tragédie ». Et c'est avec l'Orphée et le combat de Tancrède et Clorinde, précisément, les débuts du théâtre lyrique, de l'opéra, qui a eu d'autres prédécesseurs à la même époque, mais qui devient une forme majeure. Quant à Caravage, le combat entre l'ombre et la lumière, il va montrer combien Caravage prend les choses, les récits, au pied de la lettre, avec un réalisme qui était inconnu jusqu'alors. La Madone des pèlerins fait scandale parce que la Vierge est penchée, n'est pas du tout hiératique, et que les malheureux pèlerins qui sont allés à Lorette, évidemment à pied, ont les pieds sales. Et ce qui est également très frappant et qui va m'amener à une autre remarque, c'est que Caravage se peint lui-même. Alors bien sûr, dans les noces de Cana, Tintoret, Véronèse eux-mêmes sont représentés, mais dans des personnages différents. Tandis que Caravage se met lui-même en scène jusqu'à cette scène où on voit sa tête décapitée, et c'est la tête de Caravage. Et c'est là que je dirais comme lecteur qu'il manque un chapitre à ce livre. C'est le chapitre sur Montaigne, précisément, qu'il cite. Car Montaigne, exactement à la même époque, il écrit les essais entre les années 1560 et 1588. Il se met lui-même en scène. C'est une philosophie qui n'est plus spéculative, comme au temps d'Aristote ou de saint Thomas. Montaigne part de lui-même, de ses coliques, de son goût du melon, de sa famille, de sa femme, de ses enfants, et à travers son personnage, qui est le centre de son œuvre, c'est toute l'humanité et tout l'humanisme qui se trouve représenté. Et à cet égard, on peut dire que Montaigne est un personnage baroque, où il annonce l'Europe, même si il y aurait toute une théorie à faire, la France a dans une large mesure échappé au baroque, car l'âge classique au XVIIe siècle a canalisé l'inspiration baroque, ce sens du mouvement, dans des formes très Louis XIViennes, mais on sent quand même la familiarité, la communauté qui existe entre les grands auteurs baroques d'Allemagne, d'Italie, notamment dans le domaine de la musique, et la France. Je voudrais faire une confidence. J'ai été passionné par ce livre. Les tableaux dont notamment Philippe Bosson parle, je croyais les connaître et les bien connaître. Mais en lisant les 15 ou 20 pages qu'il consacre aux noces de Cana, je suis retourné au Louvre, livre en main. Et je suis resté trois quarts d'heure devant les noces de Cana. Je ne suis pas de ceux qui accordent au récit, à l'anecdote d'un tableau, une importance absolument déterminante. Le jeu des formes, des lumières, des couleurs, quelle que soit l'histoire, et même si je ne la connais pas, peut suffire à m'intéresser. Mais dans une œuvre comme celle-là, qui est le récit de ce fameux miracle des noces de Cana, où le Christ, avec sa mère, se trouve au milieu de toute une assemblée et où la Vierge remarque qu'il n'y a plus de vin et que le Christ décide de faire transformer de l'eau qui est dans les urnes en vin. C'est donc une histoire. Mais la manière dont Philippe Bosson décrit l'œuvre, l'architecture magnifique, les personnages, ceux qui l'identifient, le marié et la mariée dans un coin, la Vierge, tel ou tel personnage, est absolument fascinante. Je ne suis resté que trois quarts d'heure devant le tableau avec ses 132 personnages, et il fait 10 mètres de long, s'il vous plaît. Il est dans la salle des États, il fait face à la Joconde qui paraît minuscule par rapport à ce grand tableau, mais c'est absolument fascinant. Et il se trouve que je vais assez souvent à Venise et que j'avais vu un des tableaux du Tintoret, je l'avais encore dans les yeux, qui était la Madonna dell'Orto, et j'ai retrouvé des images qui m'étaient restées dans l'esprit en lisant ce livre de Bosson. Donc vous avez un livre qui n'est pas un livre facile, mais qui est prodigieusement stimulant, non seulement parce que la manière dont ce musicologue parle de la peinture et de la poésie est extraordinairement convaincant, que c'est écrit, je dois le dire, dans une langue admirable, et qu'en même temps, ça vous conduit à avoir un autre regard, un regard plus informé, plus instruit sur les œuvres dont il parle. Et il le fait très bien apparaître, cette correspondance entre les arts, ce mystère qui fait qu'au même moment, dans la même période, des peintres, des architectes, des poètes et des musiciens qui certes peuvent se connaître, mais qui ne se sont pas donné le mot, il n'y a pas une conspiration, vont inventer une nouvelle manière de parler des œuvres. C'est extraordinaire. Et je vais vous citer pour terminer ce qu'est le sens de sa démarche tel qu'il l'explique. Il dit « Je voudrais retrouver la naïveté du regard et de l'écoute de ceux qui ne savaient pas qu'ils étaient dans le passage, tout en mesurant du point où je suis, quatre siècles plus tard, le passage où il se trouve. Allier la candeur, la fraîcheur d'âme de ceux qui contemplaient un tableau de Véronèse sans se dire « c'est après Michel-Ange, mais c'est avant Tiepolo », qui écoutaient un madrigal avec les larmes aux yeux sans se dire « c'est après Palestrina, mais c'est avant Bach », et pourtant méditer sur le décours du temps et ce qu'il apporte nécessairement à l'enchaînement des œuvres que conçoivent les hommes. Je vous souhaite vraiment une bonne lecture.